play as time goes by.
Bienvenue dans l'histoire qui raconte notre histoire.
Oui, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon.
On reste à peu près au même niveau sur l'échelle du dégueu.
C'est la première fois qu'on traite d'atmosphère.
Brisons nos codes, brisons nos idées reçues.
Vers l'infini et au-delà.
Compteur d'ondes.
À travers le temps et l'espace, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, Des Mesures vous propose de plonger dans la complexité des échelles.
Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, Théo vous lit la première partie d'une chronique de Marie-Lou qui décrypte comment votre cerveau vous fait voir et sentir.
You rinse. Three times. You smell. It smells like a flower.
À quoi sert l'odorat et comment fonctionne-t-il chez l'humain? Cette question a longtemps été un peu mise de côté puisque la priorité était de comprendre d'autres sens jugés plus nécessaires, la vue étant le graal absolu de tout chercheur en sciences cognitives s'intéressant à la perception. L'ouïe et le toucher n'étaient pas loin derrière non plus, car on se rendait bien compte que ces trois modalités sensorielles étaient essentielles pour la construction de notre rapport au monde. En effet, il suffit de porter des lunettes aveuglantes, un casque anti-bruit ou des moufles pour vous rendre compte à quel point vous avez besoin de vos sens pour vivre. Pourtant, on s'imagine moins l'importance du goût et de l'odorat que les philosophes ont été les premiers à mépriser en les considérant comme des sens indignes de l'homme avec un grand H, puisque très primitifs et associés à la fois à la luxure et aux immondices. D'ailleurs, si vous deviez choisir lequel de vos cinq sens vous seriez prêt à abandonner pour sauver la princesse de votre vie d'un méchant dragon, prenons un exemple tout à fait neutre et réaliste, je mettrais ma main à couper que votre choix se porterait vite sur l'odorat ou le goût, qui ne sont finalement que des sens accessoires, utiles seulement pour apprécier les bonnes choses de la vie, saucisson et camembert en tête, en bon franchouillard que vous êtes. Pourtant, comme vous pouvez l'imaginer, car sinon il n'y aurait pas de chronique sur ce sujet, l'odorat vaut le coup de s'y intéresser et je vais essayer ici de vous faire partager mon enthousiasme pour les narines. Mais avant cela, revenons un peu sur les découvertes scientifiques qui ont été faites dans le domaine de la perception, principalement visuelle, car comme je vous l'ai dit, la vue est considérée comme notre sens le plus vital et donc le plus digne d'être étudié et de recevoir des financements. Aujourd'hui, on commence à assez bien cerner le fonctionnement de la vision chez l'humain et l'animal, que ce soit au niveau perceptif grâce à des expériences en psychologie cognitive ou au niveau neuronal grâce aux avancées en neurosciences. On est même en mesure de donner des noms aux zones du cerveau qui traitent séquentiellement les stimuli visuels. Ainsi, on a surnommé V1 la région qui accueille la première des informations venant du nerf optique. Pour faire original, on a nommé la suivante V2, puis V3, etc. On s'est vite rendu compte que chacun de ces petits modules s'occupait principalement d'une caractéristique particulière. Par exemple, si vous regardez le tableau La Joconde de ce cher Léo de Vinci, en admettant que vous ayez réussi à vous faufiler entre les hordes de touristes et leurs perches à selfie, eh bien il y aura, quelque part dans la partie arrière de votre crâne, que l'on appelle la région occipitale, des neurones qui vont bien réagir aux contours géométriques du tableau. Certains vont se mettre à envoyer beaucoup plus de décharges électriques quand ils détecteront une ligne verticale, d'autres quand ce sera une ligne horizontale. Il y en a même qui réagissent préférentiellement à un degré d'angle, voire même à un type de mouvement particulier. En gros, au sein d'une même aire cérébrale, on a des neurones qui répondent préférentiellement lorsqu'une certaine propriété est présente. Ce qui ne veut pas dire que les autres ne réagissent pas non plus, c'est juste qu'ils font beaucoup moins. Par exemple, un neurone qui réagit très vivement pour une ligne horizontale peut aussi réagir pour une ligne un peu plus oblique, mais dans une bien moindre mesure et inversement. C'est pour cela que l'on parle de préférence plutôt que de spécificité. Fin du petit point vocabulaire.
Well, Ezekiel saw the wheel a-rollin', the great big wheel a-turnin' over. Ezekiel saw the wheel a-rollin', way in the middle of the air.
Great God!
Ezekiel saw the wheel a-rollin', the great big wheel a-turnin' over. Ezekiel saw the wheel a-rollin', way in the middle of the air.
Well, great God Almighty, Bible declared, Ezekiel saw the wheel in the middle of the air. Great big wheel and a little bit of wheel, a wheel turning over in the middle of the wheel. The good book says, and the book don't lie, God told Ezekiel to prophesy. Then my God spoke in Ezekiel's mind, he raised his voice and began to cry. He cried, old bones,
old bones are walking,
great God Almighty, the old bones are talking.
Old bones, bones, won't you hear me now, old bones,
you hear the word of God.
Ezekiel saw the wheel a-rollin', the great big wheel a-turnin' over.
petite anecdote. La légende des sciences cognitives raconte que des chercheurs se sont rendus compte de la préférence pour un mouvement particulier alors qu'ils cherchaient complètement autre chose. Leur but était au départ d'enregistrer l'activité électrique de quelques neurones visuels chez un singe in vivo, c'est-à-dire par là que le singe était tout à fait vivant et en mesure de réaliser des tâches cognitives. Abstraction faite de deux grosses pinces introduites à l'intérieur de son crâne dans la partie occipitale. Toujours est-il que ces chercheurs montraient des images à ce pauvre singe à l'aide de diapositives, car on était avant la popularisation du vidéoprojecteur, et cherchaient à montrer que les neurones qu'ils avaient sélectionnés réagissaient à ces images, puisqu'ils étaient supposés se trouver dans une aire visuelle. Mais à leur grand désarroi, il ne se passa absolument rien du tout. C'est toujours un peu dommage quand on a ouvert le crâne d'un animal pour rien. Et puis à un moment, alors qu'un des scientifiques changeait de diapositive, à la main, nous étions en des temps reculés, rappelez-vous, les neurones enregistrés se sont mis à décharger, c'est-à-dire à libérer des décharges électriques, à fond les manettes. Un peu étonnés de ce phénomène, les chercheurs se sont penchés sur le problème et ont remarqué que c'était le mouvement de la bande noire entre chaque diapositive qui faisait danser les neurones concernés jusqu'au bout de la nuit. Avec d'autres expériences, ils ont pu déterminer que, plus généralement, le fait d'être en présence d'un mouvement horizontal déclenchait des décharges pour ces neurones. D'autres neurones, dans la même région anatomique, répondaient quant à eux plutôt quand le déplacement était vertical et d'autres encore quand il était plutôt en diagonale. À partir de ce moment-là, la communauté scientifique s'est mise à bouillonner. On venait de mettre en relation un contenu perceptif très précis, par exemple le fait de voir un mouvement horizontal, avec une activation neuronale, le taux de décharge d'une population de neurones. Tout un pan de recherche s'est donc développé afin de déterminer quels neurones répondaient à quel type de stimulation. On s'est notamment rendu compte que les régions les plus occipitales, et donc qui traitaient en premier les informations visuelles, répondaient aux caractéristiques les plus simples des objets présentés, telles que la forme, l'orientation ou la couleur, alors que des régions plus antérieures s'occupaient de traiter des aspects plus complexes. Une région en particulier a été très importante pour la compréhension des mécanismes liés à la reconnaissance des visages, c'est le gyrus fusiforme. Pour reprendre notre exemple de la Joconde, des neurones de cette région s'activent à chaque fois que vous regardez cette belle brune, tout comme ils s'activent pour des dessins de visages beaucoup plus simples, tels que ceux de ma nièce de 3 ans, ou quand vous croisez votre voisine dans la rue, bref, à chaque fois que vous êtes confronté à un visage, qu'il soit réel ou non. L'existence d'une région entière dédiée au traitement facial n'est pas étonnante quand on sait l'importance de l'aspect social chez l'espèce humaine, mais aussi chez de nombreuses autres espèces animales, et donc de l'intérêt adaptatif de pouvoir correctement identifier ses congénères. On a pu également mettre en évidence l'activité préférentielle de certaines régions pour des lieux, ou même pour des chiffres et des lettres. Alors, au-delà de l'aspect purement jouissif de pouvoir prédire quand des neurones seront actifs en fonction de ce qui est présenté au sujet, toutes ces découvertes ont permis de mieux comprendre les processus de traitement des scènes visuelles. Il existerait par exemple une voie spécialisée dans la vision pour l'action, alors qu'une autre voie serait quant à elle plus impliquée dans la reconnaissance des objets. Et tout cela, on le sait, car en regardant quelle perception émergeait pour quelle activation d'une population de neurones, on a pu mettre en relation deux niveaux de compréhension différents d'un même processus, celui plutôt psychologique de la perception et celui des neurosciences. Les deux ne vont pas l'un sans l'autre en sciences cognitives et sont rejoints par d'autres approches, telles que le comportement ou même des modélisations mathématiques. C'est quand on met tous ces angles de vue sur un même phénomène que l'on peut véritablement faire des découvertes scientifiques. Échelle moléculaire, neuronale, comportementale, sociale, toutes ont leur importance pour comprendre le fonctionnement de l'esprit humain, but que se sont fixés les sciences cognitives. Bon, vous allez me dire, c'est bien beau toutes ces envolées lyriques sur la vision et sur l'importance des points de vue transdisciplinaires, mais moi je suis venu ici pour en savoir plus sur les rocs, les caps et les péninsules. Je veux du pif, du naze. Bref, je veux que l'on me fasse sentir les joies des mondes olfactifs. N'ayez crainte, nous allons y venir dans la prochaine partie de cette chronique, et j'espère que vous comprendrez ensuite pourquoi cette longue introduction était nécessaire.
C'était Compteur d'Ondes. Réagissez sur Facebook et Twitter.
Retrouvez-nous et nos chroniques sur transistor.fr et notre site web desmesures.jimdo.com. Merci de votre écoute et à bientôt.
Compteur d'Ondes.